Pour comprendre où il va, il faut comprendre sa méthode de négociation à Vladimir Poutine. Et à ce sujet, regardez ce qu'a dit Kaja Kallas, qui est la chef de la diplomatie de l'Union européenne, ancienne première ministre estonienne, donc voisine de la Russie. Et voilà comment fonctionne Poutine selon elle. 1. Demander quelque chose que vous n'aviez pas avant. 2. Menacer vos interlocuteurs, donnez-leur des ultimatums. 3. Ne cédez pas un centimètre de terrain. À la fin, vous ressortirez toujours avec quelque chose de plus que vous n'aviez pas avant. C'est un bon résumé de sa technique de négociation.
Oui, c'est surtout un bon résumé des vieilles méthodes soviétiques. Ouais, bah voilà. Communiste, Staline faisait ça. Il n'y a qu'à demander aux Estoniens, aux Lituaniens, juin 1940, comment Molotov les a convoqués en disant « Bon, allez, hop, si vous n'êtes pas d'accord, on rentre. » D'ailleurs, ils sont rentrés. Ils ont annexé, ils ont soviétisé et communisé. Bon, donc, la chose se répète complètement. C'est tout à fait ahurissant. Moi, ce qui m'inquiète un peu dans cette affaire, c'est qu'on a affaire à un président Trump qui, pour moi, est quelque part un dilettante de la politique mondiale. Bon, ce monsieur-là n'a pas... Alors, il pourrait être bien entouré. Je ne suis pas sûr qu'il soit très bien entouré. Hein. En plus, il ne se contrôle pas très bien. On a quand même vu dans la séquence avec Zelensky, parce que les commentateurs disent Zelensky a été humilié, etc. C'est vrai. Mais ça, c'est les trois dernières minutes de l'entretien.
Exactement.
On oublie les 30 minutes. 40. Zelensky arrive, il est invité à la Maison-Blanche. En fait, il est convoqué. Il est convoqué pour signer devant toutes les caméras. On a même montré la table et les chaises. Un contrat sur les terres rares. Bon, OK. Il est prêt à discuter. Il se dit qu'il va discuter avec Trump. Qu'est-ce qui se passe? Il rentre dans cette pièce. Trump, Vance, 30 personnes autour, des journalistes de tout, et puis des caméras. Bon, écoutez, Zelensky, c'est quand même un pro des médias. Il comprend immédiatement qu'il y a une mise en scène qui est préparée.
Mais il n'a pas été convoqué, par ailleurs. Zelensky a fait des pieds et des mains pour être à Washington ce jour-là. Il n'a pas été convoqué. C'est une nuance quand même substantielle.
Le
président Zelensky voulait être là. Il a fait un forcing, ce qui est un calcul parfaitement audacieux et acceptable.
Avec l'aide de Macron.
Avec l'aide de M. Macron, qui jusqu'à la fin a fait en sorte qu'on puisse lubrifier les engrenages qui étaient un petit peu serrés. On s'est assuré que M. Zelensky pouvait être là. Il s'est mis lui-même dans la gueule du loup.
Mais est-ce que précisément, quand on voit le changement de ton,
Mais c'est une différence d'avoir été convoqué.
Le changement de ton, justement, de Donald Trump vis-à-vis de Vladimir Zelensky et vis-à-vis de Vladimir Poutine, est-ce que le vent est en train de tourner?
Le problème, c'est qu'à un moment donné, Zelensky comprend qu'il ne va pas y avoir de discussion, qu'on va l'amener à une table avec un stylo devant toutes les caméras et que Trump va dire c'est moi, hot. Bon, et donc Zelensky commence à mettre un grain de sable dans l'affaire et les deux autres commencent à comprendre que tout va capoter. Donc, il ne va pas y avoir de signature, il ne va pas y avoir de conférence de presse. Enfin, qui est humilié là-dedans? À l'origine, c'est Trump qui est complètement humilié, enfin. Et sa rage s'explique. Ce qui prouve en même temps qu'il ne se contrôle pas bien. En face, il a un Poutine qui a quand même été formé à l'école soviétique, communiste absolue.
Alors justement.
Homo Sovieticus, KGB.
Mais justement, j'aimerais qu'on y aille, j'aimerais qu'on essaie de comprendre un peu le mode de fonctionnement de Vladimir Poutine. On parlait il y a un instant de sa technique de négociation. C'est un héritage précisément de l'époque où il était agent au KGB. On ne dévoile pas ses cartes, on est dans un jeu de dissimulation, même en diplomatie.
Ah non, mais on est dans... Un communiste est toujours dans un système de dissimulation, de mensonge, d'agression, parce que monsieur Poutine, il a un logiciel tout prêt. Ce qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression que Trump, lui, il n'a pas de logiciel. Où est-ce qu'il va? Est-ce qu'il sait où il va? J'en suis pas sûr.
Et là, son savoir-faire, parce que c'est un self-made, vous connaissez très bien le système de soviétique, le système de KGB. Poutine, ce n'est pas un Superman, ce n'est qu'un objet de ce système soviétique qui a construit des hommes nourri par la violence, parce que si tu es faible, tu seras mort tout de suite, ou sinon malade, ou tu vas disparaître.
Mais c'est quoi précisément le logiciel de raisonnement d'un agent du KGB?
C'est un espion aussi, il ne faut pas oublier qu'il
était un manipulateur psychologique.
Regardez, comment les espions, je parlais avec un, comment ils obtiennent l'information? Par la force ou par la séduction? Vous vous souvenez très bien la scène avec Mme Merkel quand elle est apparue avec un chien, en sachant que Mme Merkel n'aime pas de chien, elle ne supporte plus. Vous connaissez sait très bien que pour lui, c'est une grandeur.
C'est une pression psychologique.
Donc ça, c'est psychologique par la peur, angoisse pour sortir l'information et obtenir ce qu'il veut. Ça, c'est pas la séduction. Ce n'est que mon imagination, mais j'imagine que quand M. Trump s'est rendu dans les années 80, 90 à Moscou la date 87, pour parler, pour monter son business, les Tower Hill, ces towers, ces fameux bâtiments, ça a été aussi séduction par l'argent. Donc je suis sûre que ici, Poutine pourrait jouer très bien en disant... Et d'ailleurs, vous avez bien souligné, quand aujourd'hui, à la conférence de presse, Poutine a dit d'abord quoi ? Merci à M. Président Trump. Donc, il sait très bien qu'il faut d'abord...
Donc là, précisément, c'est un exemple, c'est une illustration de la manipulation psychologique dont il use.
Ils ont dragué, ils sont tombés sur Trump qui est tombé dans les filets. Ils ont très rapidement compris que ce type est un narcissique, voilà. Et dès qu'on lui cire les pompes, il est ravi, il est persuadé qu'il est votre ami, etc. Vous imaginez être l'ami de Poutine ? Est-ce que Poutine a un seul ami ?
Alors justement, on verra dans un instant le réseau de Poutine et ce cercle très fermé qui l'entoure. Mais diplomatiquement, est-ce que ça lui donne une longueur d'avance dans ses relations avec les autres dirigeants ? Est-ce que ça lui donne même un ascendant ?
Ça lui donne surtout un seul avantage, c'est que pour Donald Trump, on l'a bien vu, c'est beaucoup plus facile de parler avec Vladimir Poutine que de parler avec Vladimir Zelensky ou même avec Emmanuel Macron. Parce que pour Donald Trump, quand même, cette époque soviétique. Donc, qu'est-ce qu'il représente pour Donald Trump, Vladimir Poutine ? C'est un peu, c'est quelqu'un qu'il connaît très bien, qui est quelqu'un qui a su tenir le pouvoir pendant assez longtemps. C'est quelqu'un qui était aussi attaqué dans son propre camp. Donc, c'est ça le point de vue de Donald Trump. Parce que je me rappelle que dans les années 2010-2011, Vladimir Poutine a pu perdre le pouvoir quand Dmitri Medvedev, lui, il était son successeur. Et c'était à bout de moment, il y a eu même des discussions comment est-ce que Dmitri Medvedev, soutenu par les États-Unis, pourrait rester au pouvoir un peu plus longtemps et Poutine aurait pu perdre le pouvoir. Donc c'est effectivement ça, il croit que tout le monde lui ment, donc même Donald Trump peut lui mentir éventuellement, et c'est dans cet état d'esprit de mensonge total que Vladimir Poutine arrive quand même à tenir le pouvoir et à discuter avec...
Et Perrine, vous parlez de comment il fonctionne, M. Poutine. Mais regardez, qu'est-ce qu'il fait dans la conférence de presse ? Il renverse la situation. Il sait très bien que c'est lui qui a commencé l'invasion en Ukraine. C'est lui l'agresseur. Qu'est-ce qu'il dit ? Il demande comment surveiller 2000 kilomètres de la ligne de front.
C'est lui, d'une certaine façon, qui demande des garanties de sécurité, qui dit que ça va laisser du répit à l'Ukraine, ils vont pouvoir se réarmer, reprendre des forces.
C'est ça l'exemple, comment elle fonctionne.
Il gagne du temps.
L'exemple, comment... Alors, quels sont vraiment ses objectifs ? Parce que c'est aussi tout l'enjeu des négociations. On disait, il dissimule, il cache ses cartes. Les discussions autour des garanties de sécurité. Emmanuel Macron disait, il y a quelques jours, il ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. À quoi ressemble dans sa tête ce que doit être la Russie.
Non, mais ça, on le sait quand même assez bien. Ces discours ont été traduits en français. Il y a un livre épais comme ça, ces discours depuis 87, où il reconstruit entièrement l'histoire. Hein, il vous fait un... Moi, en tant qu'historien, je suis très surpris de ce que j'apprends quand je le lis. Bon, il l'a dit en 2005. Hein, l'effondrement de l'URSS a été la plus grande catastrophe géopolitique du 20e
siècle. Justement, déplions la carte de l'URSS.
Bah oui.
Et on va la comparer avec la carte de la Russie actuelle. Territoire immense, c'est cette carte-là que Vladimir Poutine a en tête aujourd'hui. C'est comme ça qu'il voit la Russie.
Absolument.
Oh non.
C'est clair. Non,
mais tous ces pays.
Non, mais c'est tout à fait clair. Et quand vous lisez ces très longs discours historiques où il reconstitue, etc., il vous refait l'histoire des Ukrainiens, etc., enfin, c'est complètement loufoque. Sur le plan historique, c'est loufoque. Mais bon, c'est ce qu'il a en tête. C'est ce qu'on lui a appris comme homo sovieticus. C'est au KGB ce qu'on lui a appris. Et puis, c'est son idée de la grandeur. Voilà, c'est ce qu'il veut, lui.
Je pense que quand on parle de cet empire soviétique pour Vladimir Poutine, oui, c'est l'idée de le reconstruire en quelque sorte, de en fait, faire... tout pour que la Russie a plus de pouvoir qu'elle a avant qu'il était...
Pardonnez-moi, mais c'est un vœu qui est complètement vain, puisqu'en 3 ans, il a récupéré 20% du territoire ukrainien. Et là, quand on voit la carte de l'URSS, il faudrait, je sais pas, 150 ans peut-être.
Gain de terrain réel. Ce qui compte, c'est un peu l'image du monde qu'il a, l'image du monde qu'il a, si vous voulez, un citoyen russe lambda. Parce que maintenant, quand on parle avec des Russes un peu dans la Russie profonde, ils pensent que la Russie est devenue beaucoup plus importante, elle pèse beaucoup plus avec Vladimir Poutine que c'était au début des années 2000. Et je reviens sur cette carte-là que vous montrez maintenant, oui, il y a, pour moi, il y a deux parties de cette carte. Il y a tout ce qui est à l'ouest, donc l'Estonie, Lituanie, on peut parler de certains pays. Bien évidemment, pour eux, ce sont des pays à risque, parce que ce sont des pays qui peuvent se tourner vers l'ouest. Mais quand on parle du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan, du Kyrgyzstan, du Tadjikistan, ce sont des pays où le soft power russe et soviétique a fonctionné très bien. Donc, il y a toujours, donc, par exemple, à Kazakhstan, on parle toujours russe. Pour lui, la question de langue, c'est aussi très importante. Donc, on peut dire que ces pays-là, ils sont, c'est pas qu'ils ne sont pas menacés, mais ce sont, pas des, sont plutôt des partenaires que des cibles pour la vie.
Justement, Ulysse, quand on regarde ces cartes, Denis l'évoquait, il y a les trois républiques baltes, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie. Ces trois-là sont les seules ex-républiques soviétiques qui sont membres de l'Union européenne et de l'OTAN. Mmh. Est-ce qu'ils pourraient, est-ce que c'est dans sa tête, un projet, un jour, de s'attaquer à ces trois pays-là, ou ça reste une ligne rouge ?
Il a une vision impériale de la Russie. C'est le tsar moderne. Mmh. Donc, il a ses racines, Catherine II, Ivan le Terrible, Alexandre le Grand, etc. Donc, dans sa tête, si vous voulez, il veut rester dans l'histoire comme celui qui aura réussi à restaurer la grandeur de l'ex-URSS avec l'aigle impérial à deux têtes, vers l'Asie et vers l'Ouest. Pour moi, il y a quand même une différence entre l'Ukraine et les autres pays. Parce que l'Ukraine, c'est aussi, d'une certaine manière, le berceau de la slavitude et de la Russie. Et quand j'étais moi-même correspondant à Moscou du temps de l'URSS, ce qui ne me rajeunit pas, j'allais à Kiev.
Vous êtes toujours jeune, vous savez, Ulysse.
Merci, Périne. on n'avait pas du tout le sentiment que c'était un pays qui allait devenir indépendant. On pensait même qu'on allait à Kiev comme on allait à Leningrad ou à Saint-Pétersbourg après, si vous voulez. Donc, dans l'esprit des Russes et des Soviétiques et puis des Russes, ça faisait vraiment partie intégrale de cet ensemble. Donc, et puis, il y a toutes ces familles partagées qui vivent en Ukraine ou en Russie aujourd'hui et qui sont déchirées par la situation actuelle et qui sont dans une situation impossible parce que ceux qui sont en Russie veulent rester russes, ceux qui sont en Ukraine veulent vraiment être ukrainiens. Donc, pour Poutine, l'enjeu mondial, effectivement, je suis assez d'accord, c'est de faire croire aux Russes que la Russie a retrouvé sa grandeur. Et le fait de pouvoir retrouver ce dialogue direct avec Trump, ça lui donne ce piédestal. C'est vraiment, il est redevenu le grand tsar de l'époque soviétique. Et donc, c'est pour cela que lui, il a quand même intérêt à trouver une issue. Peut-être pas tout de suite, mais quand même à négocier avec Trump pour arriver à un accord.
Et on verra dans un instant, on fera le jeu des sept différences entre Vladimir Poutine et Donald Trump, parce qu'on a beaucoup comparé les deux hommes, on verra ce qu'il en est précisément. Mais j'aimerais, Stéphane Courtois, revenir sur une date avec vous. Le 9 novembre 1989, chute du mur de Berlin, qui entraîne deux ans plus tard la fin de l'URSS. Vladimir Poutine est aux premières loges à ce moment-là. Il est agent du KGB.
Il est le revolver à la main en train d'essayer d'empêcher des manifestants est-allemands d'entrer dans sa résidence KGB. Donc c'est quand même...
Donc il vit cette séquence de plein fouet.
Ce type a vécu dans l'image de la grandeur soviétique, deuxième superpuissance mondiale, le KGB, le truc. Une chose qu'il ne faut jamais oublier, je crois que même en tant qu'historien, c'est passé sous les radars, c'est la nomination ou la propulsion d'Andropov, patron du KGB, à la tête du parti. Alors là, inutile de vous dire que tous les gars du KGB, hein, bon, c'est nous quand même. On est quand même les meilleurs. Hein, parce que le parti, mais nous, le KGB, on est quand même le socle absolu. Bon, donc, ça. Et pour lui, cette affaire de Dresde, la chute du mur, ça a été le traumatisme absolu. D'un seul coup, il a, entre guillemets, découvert la démocratie. C'est-à-dire, il a découvert le peuple. Le peuple qui manifeste, tout simplement. Et puis, il a été obligé de se tirer. Et puis, il s'est retrouvé à Saint-Pétersbourg. Et là, deux ans après, on remet ça. Pouf, l'URSS s'écroule. Non, c'est un garçon qui est traumatisé.
C'est là qu'est né son projet de reformer l'URSS. C'est là que ça a commencé.
Il est dans un désir de vengeance absolue, évidemment. Mais ça se comprend. Regardez les Allemands après 1918. Bon, il y a eu un ressort là qui.
Il n'y a pas que Poutine qui est comme ça. C'est-à-dire la Russie, depuis toujours, a été très hostile à la France et à l'Occident. Même au moment d'une certaine libération en 2013, etc., ils continuent à mener des actions d'espionnage très fortement, en particulier en France. Ils ont cherché à déstabiliser. Donc en fait, la Russie est hostile aux pays occidentaux.
Je pense que peut-être à ce moment-là, il a été traumatisé à la chute du mur à Berlin, mais à mon avis, il avait ce projet en tête quand il a réussi à changer les oligarques en Russie, en arrivant au pouvoir, quand il est devenu première fois président. Vous vous souvenez cet acte quand il a amené tous les oligarques autour de table en disant maintenant vous allez soumettre à mon pouvoir. Ouais. Et vous devriez signer cela. Et un monsieur qui a tremblé, il a signé, il est parti avec un stylo et l'autre lui dit reviens, tu as oublié quelque chose. Il dit blanc, mais qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai tout signé. Il dit c'est mon stylo. Et donc même cet oligarque-là, il lui donnait le dernier, c'était son stylo. Donc je pense qu'à ce moment-là, il a compris qu'il a le tout pouvoir, l'argent, et maintenant il va réverrouiller l'esprit, peut-être dernière, l'espoir de liberté de Russe. Et après, maintenant, il complètement dirige le pays d'une manière presque gangster, à mon avis, qu'il fait.
Un gangster, vous dites, pour comprendre comment il fonctionne, qui il est, il faut aussi comprendre son entourage, son réseau, sa galaxie. C'est justement l'œil de Raphaël. Raphaël, il y a des visages qu'on voit ou parfois qu'on aperçoit dans l'entourage de Vladimir Poutine et des noms qu'on connaît moins, sauf que leur rôle est essentiel.
Oui, je me suis intéressé sur la garde rapprochée de Poutine. Alors j'ai fait une sélection, j'ai pris 4 personnalités que vous devez bien connaître, Ulysse, notamment Youri Outchakov, le diplomate, celui qu'on va beaucoup voir ces prochains jours, qu'on voit depuis plusieurs jours aussi. C'est un ancien ambassadeur aux États-Unis, c'est le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine. Alors c'est lui, hein, ça va être l'un des visages de ces négociations. D'ailleurs, il s'exprime aussi à la télé, il s'exprime notamment aujourd'hui à la télé russe pour critiquer le cessez-le-feu, enfin en tout cas cette idée de cessez-le-feu, en estimant que c'était un répit temporaire absolument. À l'Ukraine.
C'était déjà un premier message
exactement.
Sur le thème.
Et c'est l'une des rares personnalités qui a la légitimité, en absolument. Tout cas l'appui de Vladimir Poutine pour s'exprimer. Un autre personnage que vous connaissez très bien autour de ce plateau, Alexis Dioumine, un ancien garde du corps de Vladimir Poutine pendant de longues années, notamment au début des années 2000. Ils ont une passion commune d'ailleurs pour le hockey sur glace, qui n'est pas anodin. Ils jouent ensemble de temps en temps au hockey sur glace. Et puis, il a un rôle qui s'est largement politisé tout au long des années 2000. Il a eu un rôle d'ailleurs dans l'annexion de la Crimée en 2014. C'est aussi l'un des hommes de la négociation avec Evgeny Prigojine de la milice Wagner pendant la mutinerie de l'été 2023. Et un autre élément qui est loin d'être anodin, en août 2024, c'est très récent, c'est lui qui est envoyé à Koursk, qui est pour repousser justement l'offensive ukrainienne. Alors là, vous me direz si ce que je vous dis vous semble pertinent, mais il est souvent mentionné comme successeur potentiel de Poutine, sachant qu'on estime aussi que c'est lui qui se plaît à entretenir cette rumeur de temps en temps. Voilà, je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus, Stéphane Courtois.
En tout cas, sous Staline, quelqu'un qui aurait répondu la rumeur qu'il pourrait succéder au patron.
Il serait plus là. Effectivement, lui est toujours là. Un autre personnage qu'on a vu d'ailleurs hier soir, toujours dans l'oblast de Koursk, Valéry Gerasimov, le général qui était aux côtés de Vladimir Poutine hier, le chef d'état-major. Alors lui, c'est un militaire pur et dur, c'est lui qui supervise, si on peut dire ça, l'invasion en Ukraine. Et je voudrais vous dire ce qu'en disait Pierre Devilliers, l'ancien chef d'état-major de l'armée, des armées françaises. C'était donc son homologue. À l'époque, il était sur BFM TV il y a quelques années, en 2022. Et il explique ce que j'ai constaté, c'est qu'il ne reconnaît qu'une chose, le rapport de force, pas l'élément de langage, pas l'éclat de voix, le rapport de force, le vrai. Et c'est aussi un adepte de la doctrine de la guerre hybride dont on a parlé hier soir, justement, cette fameuse guerre hybride sur le front, mais hors du front, avec ses ingérences, avec cette désinformation. Et puis un dernier visage, peut-être le plus important et aussi le plus méconnu, Nikolaï Patroutchev. Le conseiller, alors le plus méconnu, encore une fois, pas de vous, mais c'est vrai qu'on en parle moins. C'est l'ancien du KGB qui a fait une carrière un petit peu parallèle d'ailleurs à celle de Vladimir Poutine, l'ancien patron qui l'a succédé à la tête du FSB, considéré comme l'idéologue de Poutine, le fidèle parmi les fidèles, le plus extrême aussi. Il a été décrit récemment par un spécialiste britannique de la défense, et je trouve que la citation est assez intéressante, comme le diable sur l'épaule de Poutine qui lui verse du poison dans l'oreille. Pour lui, sa théorie, elle est simple, c'est l'Occident qui veut détruire la Russie, les Ukrainiens sont des Russes, et il a accordé une interview début 2025, c'est assez rare. Et pour lui, il n'est pas exclu qu'au cours de l'année à venir, donc 2025 à venir, l'Ukraine cesse purement et simplement d'exister. Quand on a quelqu'un comme ça qui parle à l'oreille de Poutine, oui. Stéphane Courtois,
le diable de Poutine.
Voilà. Et est-ce qu'on peut se permettre d'être optimiste ?
Je dois dire que j'ai oublié, j'avais préparé un petit livre de 1814 que Napoléon avait fait spécialement écrire en deux volumes sur les Cosaques. Qu'est-ce que c'est que les Cosaques ? Vous lisez ce livre, vous avez toute la situation d'aujourd'hui qui est là. L'Ukraine est décrite en long, en large, en travers, avec toute son histoire, etc. Et on ne parle pas des Russes. On parle des Russes comme de colonisateurs, comme d'envahisseurs, comme de protecteurs. On parle des Polonais, ouais. comme etc. Mais et au milieu, sur 300, 400 pages, il y a les Ukrainiens, les Cosaques. Bon, donc évidemment, ces gens-là, ils ne supportent pas cette idée. Ils ne supportent pas l'idée qu'il puisse y avoir un peuple qu'ils ont tenté de coloniser. Il faut jamais, faut toujours rappeler que l'Ukraine, au moins jusqu'en 1950-56, etc., parce qu'il y avait encore des guérillas contre le KGB, etc., les villes, comme toujours dans la colonisation, les villes, bon, il y a les garnisons russes, il y a les autorités russes, etc., mais le pays est rural, donc 90% de la population vit dans les campagnes, parle l'ukrainien, éventuellement ne parle même pas le russe, donc voilà, ça, c'est ça les réalités. Ils ne veulent pas en entendre parler. Ils sont toujours dans leur... ça, c'est Staline qui a installé ça à partir de 1945. Le grand peuple russe. Bon.
D'ailleurs, Nikolaï Patrouchev, quand il dit que l'Ukraine va cesser d'exister, c'est justement en disant, et il explique derrière, les Ukrainiens sont nos frères, ce sont des Russes, comme les autres.
En dehors de quelques ukro-nazis.
Exactement. Voilà, les néo-nazis, c'était notamment lui.
On a vu là quelques personnages de la galaxie de Vladimir Poutine. Ils sont combien, en fait, dans cette garde rapprochée autour de Poutine ?
Il y en a une demi-douzaine, mais pour ajouter simplement à ce qu'a dit Raphaël, c'est qu'on les appelle les Siloviki, c'est-à-dire c'est les hommes des services secrets. Et quand on parlait, par exemple, du garde du corps, on s'imagine un garde du corps grand et fort, etc., ouais. mais il était aussi et surtout membre du GRU, enfin même l'un des patrons des services militaire de renseignement.
Donc le GRU, c'est un des trois services de renseignement.
Oui, mais c'est le service clé, si j'ose dire. Bon, il y a le FSB, etc.
C'est le plus dur.
Il y a le FSB, le GRU, et le troisième, c'est...
Il y a le FSB, le GRU, et le troisième service de sécurité.
Oui. Le service de renseignement. Je vous pose une colle. Il n'y a personne qui a écouté l'émission d'hier et je l'ai oublié, mais on va le retrouver. SVR.
Le service du renseignement extérieur. Ah bah oui. Mais donc, le garde du corps, en fait, c'était un homme qui a été formé à l'école militaire en URSS, qui est devenu effectivement le garde du corps, donc quelqu'un de très proche, mais qui a joué un rôle essentiel dans l'annexion de la Crimée. Et aussi dans l'élimination de Prigojine, l'homme qui avait voulu prendre la place de Poutine. Et puis un mot sur Patrouchev aussi. Lui, c'est certainement...
Donc le fameux diable.
Mais peut-être le plus puissant après Poutine. C'est-à-dire que oui, effectivement, c'est l'ombre de Poutine, il est derrière dans l'ombre de Poutine, mais c'est sans doute... il est le patron du Conseil national de sécurité. Ouais. C'est lui qui a organisé l'invasion de l'Ukraine, lorsque Poutine a dit « on y va ». C'est lui l'homme orchestre de cette invasion, de cette opération spéciale. C'est un homme qui est effectivement extrêmement puissant. Et donc avec ces trois-là, si vous voulez, on a vraiment le trio qui... règne sur la Russie d'aujourd'hui.
Vous dites une demi-douzaine dans cette garde rapprochée autour de Vladimir Poutine. Comment on gagne la confiance de Poutine ? Comment on rentre dans ce cercle extrêmement, extrêmement restreint ?
Ah ben ça, c'est un système à la fois soviétique, enfin stalinien et mafieux. C'est ça qui est extraordinaire. Il y avait un système soviétique fondé réellement par Staline, qui était ce système de la confiance absolue. Si le patron n'a pas confiance, la moindre dénonciation, parce que évidemment ces gens-là ils s'adorent, mais s'ils peuvent se jeter des pots de banane auprès du patron en disant lui il a fait ci, lui il a fait là, bon ça c'est une chose, c'est ce qui existait, c'est à ça qu'a été formé Poutine. Le problème c'est que après 91, en particulier à partir de Saint-Pétersbourg et de toute la mafia du port de Saint-Pétersbourg qu'il a été amené entre guillemets à gérer. Hein, parce que là, il y a eu un deal entre des gens du KGB et puis la grosse mafia, parce que le port de Saint-Pétersbourg, je ne sais pas si vous l'avez traversé, mais c'est quelque chose de très spécial. Hein, et donc voilà. Et là, alors dans la mafia, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Il y a le boss. Hein, si vous déplaisez à Totorina, il va vous arriver des gros problèmes, c'est tout.
Mais il faut dire quand même une chose, c'est que Poutine a eu un destin absolument extraordinaire, parce qu'effectivement, c'était un officier du KGB de seconde zone, qui a été sans doute effectivement meurtri par la chute de l'URSS, mais qui a réussi, en étant à Saint-Pétersbourg le chargé des relations internationales du maire de l'époque, à faire son chemin et finalement à négocier, d'abord en s'accordant avec la famille de Boris Yeltsin, à devenir l'homme incontournable, puis nommé Premier ministre, puis devenu président. Et donc, si vous voulez, et il est président depuis 22 ans maintenant, c'est ça ? Donc, si vous voulez, on peut l'accuser de tous les maux, mais il a quand même réussi à rester au pouvoir comme un tsar de l'époque moderne.
Par quelle mesure ?
Peu importe les moyens, il est toujours là. Et donc, effectivement, on peut critiquer la dictature de Poutine et tous ses maux, mais il est là.
Qui viendrait le remplacer? Parce qu'il y a à droite de Poutine des gens qui sont encore plus radicaux sur la question ukrainienne particulièrement.
Oui, effectivement, mais pour l'instant, ce qui pèse beaucoup dans la tête de Vladimir Poutine, c'est qu'il n'y a personne qui va venir le remplacer. Parce que si vous voulez, encore il y a quelques années, on a parlé effectivement des élections. Même lui, on a vu qu'il a eu des recherches un peu des successeurs à droite, à gauche. Donc on parlait de Jirinovski qui est maintenant mort, qui est décédé suite au Covid. Donc, il y a eu tant de personnes qui auraient pu effectivement avoir le pouvoir. Mais je pense que c'était aussi après l'épidémie de Covid que le cercle autour de Vladimir Poutine s'est beaucoup refermé. On a pu voir qu'il n'y a pas grand monde qui ont parlé avec Vladimir Poutine physiquement à cette époque-là. Et c'est aussi à ce moment-là où il a commencé vraiment à beaucoup filtrer des gens avec qui on a parlé. Et donc c'est à ce moment-là que des gens comme vous l'avez nommé, des Patrouchev par exemple, mais aussi Igor Sechin qui est le patron de Rosneft, qui ont joué beaucoup leur rôle et qui ont un peu répété ses idées sur l'Ukraine dont on a parlé, qui est arrivé jusqu'à l'invasion.
Ouais, c'est à ce moment-là, vous dites, avec le Covid, qu'il a encore refermé un peu plus le cercle. On parle de sa garde rapprochée, Raphaël. Il faut aussi évoquer, évidemment, la sphère privée. Et là, c'est le mystère le plus total.
Oui, surtout depuis quelques années. Mais le mieux, c'est de regarder un extrait de Ligne Rouge, un documentaire donc, de la rédaction de BFM TV, qui a diffusé en 2022 sur la vie cachée de Vladimir Poutine. On est en décembre 2014. Vladimir Poutine répond lors d'une conférence de presse à des journalistes, et notamment à une journaliste qui ose lui poser une question sur sa vie privée.
Это мне один приятель мой из Европы, такой большой начальник, он мне как-то недавно говорит, слушай, у тебя есть любовь? Я говорю, в каком смысле? Ну ты любишь кого-нибудь? Я говорю, ну да. А тебя кто-нибудь любит? Я говорю, да. Он, наверное, решил, что я зверил совсем. Он говорит, ну слава богу, так водочки махнул. Все в порядке, не беспокойся.
Oui, alors la journaliste lui demandait, parce que c'était caché au début, s'il avait quelqu'un dans sa vie. Et il lui expliquait que oui, il avait quelqu'un dans sa vie, mais ça s'est arrêté là. Mais c'était l'une des rares fois où il acceptait d'en parler.
Ça ne veut pas dire que c'est vrai.
Non, ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais
la date... Il a bien adressé les messages
à son peuple. Mais ça se passe en 2014. La date, elle n'est pas anodine, évidemment, parce qu'on est un an après l'annonce à la télévision russe de son divorce avec donc son ex-femme. Ils étaient mariés en 1983, Lyudmila Orechtchenia. Ils ont eu ensemble d'ailleurs deux filles, Maria Vorontsova, qui a 39 ans, qui est médecin endocrinologue pédiatrique, et une autre fille, Katerina Tikhonova, qui a 38 ans, qui est une femme d'affaires. Et puis il y a une autre femme dont il faut parler aussi, Alina Kabaeva, qui est donc sa compagne présumée depuis maintenant de longues années. C'est une championne olympique de gymnastique, notamment lors des JO de 2004. Elle serait mère, il n'y a rien de confirmé, de deux enfants. Parfois, on parle de trois enfants, voire davantage, dont le dernier d'ailleurs est né en 2019. Et il y a quelque chose qui est assez important à son sujet, c'est qu'elle a été épargnée par les sanctions occidentales, contrairement aux deux autres filles de Vladimir Poutine. Notamment, il y avait un article du Wall Street Journal qui expliquait que si l'Occident l'épargnait, c'était parce qu'il craignait la réaction violente de Vladimir Poutine. Donc là,
elle a été épargnée.
Et elle, exactement, Alina Kabaeva a été épargnée par les sanctions occidentales.
Stéphane Courtois, j'entendais un spécialiste justement dans ce document Ligne Rouge que je vous invite à revoir et dont on a vu un extrait qui disait Vladimir Poutine se considère comme un tsar marié à la Russie, toute sa vie est consacrée à son pays, à la Russie. Est-ce pour cela qu'il est aussi discret sur sa vie privée ?
Je crois que toute sa vie est consacrée à lui-même.
Ouais,
c'est un homme qui est totalement imbu de son pouvoir, avec un logiciel venant du communisme, c'est-à-dire très dur, très carré, très, très précis, très méticuleux, parce que c'est certainement un homme très méticuleux. Il y a eu des témoignages précis de grands responsables américains du pétrole, etc., disant quand on a discuté avec lui, il connaissait les dossiers par cœur, etc. Donc ça, c'est très important. Ça vient de Staline. Staline est un homme ultra méticuleux, etc. Alors, il n'est pas gentil, ça, c'est pas la question. Mais dans le travail, c'est un super professionnel. Bon, donc ça, c'est important. Et puis alors, ce qui s'ajoute maintenant, depuis la chute de l'URSS avec Poutine, c'est le côté mafieux. Parce que s'il attaque l'Ukraine, alors il nous fait toute cette histoire, tout ce discours, on reconstitue l'histoire, mais enfin, c'est un phénomène de prédation. Il vient pour s'emparer des richesses de l'Ukraine. Hein, c'est clair. On s'en empare, on va se partager le gâteau, les gars, revenez, allez-y, bon. Hein. Et les autres, qui étaient tous ces courtisans, les militaires et autres, faux militaires, etc., parce que quand même, enfin, il faut revenir au début. On en est, si j'ai bien compté, à 1075 jours de guerre. L'affaire devait être terminée au bout de 10 jours. Donc il y a un petit problème. Le petit problème, c'est que il a été tout simplement désinformé par son entourage, qui l'a poussé dans son délire, en lui disant « Vas-y, on peut y aller, on tient tout. À Kiev, il n'y a pas de problème. On a infiltré, etc. On va liquider Zelensky, etc. » C'est d'ailleurs une chose qui m'inquiète, moi. Si jamais Trump donner un signal clair qu'il lâche les Ukrainiens. Allez, je mets mon petit doigt à couper que Zelensky, il y aura un feu vert d'assassiner Zelensky.
Parce que Zelensky, un feu vert d'assassiner Zelensky.
Il avait aussi les tentations de Zelensky.
C'est un vrai problème, parce que Zelensky, c'est quand même, c'est comme Churchill. Si les nazis arrivent à assassiner Churchill en 41, bon, ça pose beaucoup de problèmes. Hein, il faut quelqu'un qui incarne la résistance, qui incarne la défense, les soldats, là, bon, vous l'avez entendu, votre soldat, là, dit oui, Zelensky, c'est le président, c'est lui qui donne les ordres, etc. Donc, attention. Je deviens très méfiant sur cette affaire. Parce que si jamais Zelensky était assassiné, alors là, comment réagirait l'Ukraine?
Et comment réagiraient aussi les États-Unis? Comment réageraient les Occidentaux?
Les États-Unis, vous avez vu l'amour de Monsieur Trump pour Zelensky, hein.
Alors justement, il va falloir après, dans un instant, je vais vous donner la parole, Macha, mais j'aimerais
pose juste cette piste.
Je la pose
officiellement aujourd'hui. On verra.
Et vous parliez de l'amour entre guillemets de Donald Trump pour Volodymyr Zelensky. Et j'aimerais bien après qu'on s'intéresse aux similitudes et aux différences aussi entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Macha, vous vouliez ajouter un mot?
Deux mots. Vous avez rappelé qu'au 2022, il avait des tentations de la mort de Zelensky.
Bien sûr, il y a
déjà organisé. Donc ça, c'est la première chose. Absolument. Moi, j'avais juste une phrase dans la tête. Si cet homme, donc Poutine, avait connu le vrai amour, il n'aurait pas été capable de commettre autant de crimes de guerre et les choses mal pour ce monde.
C'est un homme en manque d'amour, c'est ça que vous nous dites.
Parce que si on est amoureux, on ne pourrait pas penser même à ce n'est qu'un
homme. C'est un homme qui a le cœur vide. L'analyse de
mot juste, il a dit, c'est un professionnel.
C'est un professionnel, c'est ça. Qui agit comme un professionnel avec son logiciel d'agent du KGB.
Qui gravit les échelons les uns après les autres, en surprenant tous ceux qu'il prenait pour un moins que rien, et qui finalement se retrouve à la tête de l'État.
Avec aussi une couche de paranoïa, parce qu'il faut aussi parler de cette paranoïa. Et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, vous parliez du Covid, Denise, vous disiez à ce moment-là, il a encore resserré davantage sa garde rapprochée.
Il fallait attendre 2 semaines hein, pour voir alors, Poutine en isolement. Ouais.
On va vous remontrer une image qui nous a tous fait réagir, qui a été énormément commentée. C'était quelques jours, justement, avant l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine, Emmanuel Macron, qui est reçu à Moscou, c'est le 7 février 2022, avec cette fameuse table de 5 mètres de long pendant la période effectivement du Covid, qui nous raconte quelque chose, qui nous dit quelque chose de sa paranoïa, Denis.
Oui, mais c'est 7 février 2022, je pense.
Oui, c'est 2022.
Donc c'est effectivement quelques jours avant le début de la guerre. Je pense que ça nous dit, dans toutes ces images, même ce qu'on vient de dire un peu sur cette paranoïa de Vladimir Poutine, ça nous montre une seule chose, que Vladimir Poutine, comme il disait, comme nous, on parle de lui, il se sent un tsar. Et tsar, c'est qui? Tsar, c'est quelqu'un qui laisse un héritage. Et pour lui, la Russie, qui est dans son état d'esprit fort, dans la Russie, qui est dans son état d'esprit respecté, c'est un peu ça. Et donc, quand on parle de cette panaria, je pense que dans son idée, il ne protège pas uniquement soi-même, il ne protège pas uniquement son pouvoir, mais l'avenir de Russie.
Elle se traduit comment concrètement cette paranoïa? Parce que voilà, c'est un homme qui ne veut pas prendre l'avion, qui veut voyager dans des trains blindés, qui a même des cortèges de faux véhicules pour brouiller les pistes. Ça se traduit de
plein de façons. Ça se produit, tous les éléments de sécurité que vous avez rappelés, oui, effectivement. Donc c'est très dur même de visiter les conférences de presse de Vladimir Poutine parce qu'il y a certes beaucoup de contrôle, mais après ça se traduit aussi par son... il protège beaucoup sa famille. Donc vous avez parlé de ses deux filles. En fait, les noms de ces deux filles doivent être dévoilés de manière officielle il n'y a pas si longtemps. Je pense que c'était une dizaine d'années. Donc on ne savait pas du tout qui était sa famille. Et en plus... maintenant, donc on sait que apparemment il a pas de fils, donc c'est ça qui peut gêner également un peu son parce que sa gestion du pays, son héritage, il voulait faire de la Russie un peu, si vous voulez, comme un peu Donald Trump, une entreprise familiale. Il voulait le transmettre peut-être à son fils ou maintenant à ses filles. Ceci pour ça qu'il les protège. Et tous les journalistes qui ont essayé d'enquêter sur sa vie privée, sur sa famille, y compris sur sur sa maîtresse dont on a parlé, ils ont été durement attaqués en justice et en physique.
Ça se traduit aussi par l'agression. L'agression de ceux anciens pays de l'Union soviétique qui veulent être indépendantes. Juste un mot par rapport de paranoïa. Moi, j'ai lu un rapport britannique qui est sorti en 2022 après que les Russes, l'armée russe a échoué de prendre Kiev en 3 jours. Là-bas, ils ont dit que il y avait un monsieur qui est représentant de services secrets parce qu'il y avait beaucoup des espions en Ukraine, des espions russes qui ont collecté l'information pour dire comme quoi à Kiev. À cette époque-là, il avait la chute de intérêt des populations pour Zelensky, pour le président, que des gens étaient mécontents. Donc, c'était le bon moment. L'armée n'était pas prête. Il avait les situations compliquées avec l'économie. Donc, c'était le bon moment pour y aller. C'était une des choses que m'a frappé parce qu'il avait beaucoup d'espions à ce moment-là en Ukraine russe qui fournissaient plein d'informations à ce boss d'espionnage qui a parlé à Poutine dans cet entourage privé de Poutine.
Et Stéphane, qu'on voit comment cette paranoïa, elle se traduit dans sa façon de mener les négociations?
La paranoïa, elle vient du communisme, parce que tous ces chefs communistes, Lénine et Staline encore plus, étaient paranoïaques, avec une définition très simple. Si vous n'êtes pas avec nous, c'est que vous êtes contre nous. Donc c'est aussi simple que ça. Et à partir de ce moment-là, c'est... voilà, on se combat à mort. Hein. Donc voilà, c'est presque élémentaire, j'ai envie de dire. Hein. Mais c'est aussi un phénomène aussi de sa jeunesse, hein, quand il était dans son quartier, les phénomènes de bande, etc. Comme les phénomènes de bande aujourd'hui qu'on voit dans nos quartiers. Si t'es pas avec nous, t'es contre nous, je prends ma calage, pof, je te tire dessus. Bon, donc voilà, c'est assez élémentaire, vous allez me dire, mais c'est complètement élémentaire. Oui, c'est primaire.
Et est-ce que le logiciel de Donald Trump est le même? Est-ce que si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi?
Oui, mais pas du tout dans la même construction total.
Oui, parce qu'il y a une chose là, fondamentalement différente, c'est que Poutine était un garçon de la rue, un sale gosse.
Bien sûr.
Alors que Trump est né avec une cuillère en argent dans la bouche. Il est l'héritier d'un grand patron de l'immobilier à New York, qui avait fait fortune et dont il a hérité, avec des hauts et des bas. Donc deux milieux très différents. Poutine s'est battu dans la rue, d'ailleurs on en parle souvent, et alors que Trump, lui, finalement, est arrivé au sommet sans avoir fait grand-chose de spectaculaire.
Non, mais alors justement...
c'est un type très, très dur, hein, Poutine, attention, c'est un homme méchant. Regardez comment il a fait tous ces assassinats ciblés. Il n'a pas fait de grande terreur à la Staline, il n'en avait pas besoin d'ailleurs. Il a fait des assassinats ciblés. Lisez les mémoires de Navalny, vous allez voir comment ils l'ont torturé quasiment à mort.
La force de Trump, c'est justement qu'il n'a pas le même logiciel que Poutine. C'est-à-dire que pour Poutine, c'est quelqu'un d'insaisissable.
D'imprévisible, vous avez d'un côté l'agent du KGB et de l'autre l'imprévisible, bruit de décoffrage.
Poutine a une stratégie, une logique, et il la tient. Trump, il peut complètement changer du jour au lendemain.
Est-ce que ça peut déstabiliser justement Poutine? Oui, parce qu'être face à un interlocuteur de la sorte.
Et les Chinois aussi. Les Chinois se demandent comment gérer Trump. En fait, il n'est pas gérable. Et donc, Poutine.
Mais est-ce que c'est un atout, un handicap pour Trump?
C'est une force.
C'est une force pour oui, Trump absolument. De ne pas être gérable.
Parce que ses adversaires ne savent pas finalement comment le prendre.
Alors il y a quand même.
Et qu'est-ce qui va sortir de son chapeau au dernier moment?